L'Église Parole du Salut vous invite à suivre ces messages évangéliques. Bonne écoute.
Bonsoir à tout le monde. Alors, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire trois portions des Écritures dans les livres de Genèse et puis une quatrième dans les livres d'Ésaïe. Je dois déjà faire une confession tout au début, c'est que l'épreuve que je vais aborder ce soir, au fait, j'aurais dû l'aborder le vendredi, s'il fallait être chronologique. Et du reste, c'est ce que j'avais prévu. Mais depuis hier soir, j'ai commencé à lutter avec l'impression du Saint-Esprit dans mon cœur. Et ce matin encore, c'est devenu plus fort. J'ai dit, bon, Seigneur, j'aurais bien voulu suivre la chronologie, mais je ne sais pas pourquoi tu veux et tu permets que ce qui aurait dû venir vendredi vienne déjà aujourd'hui. Genèse chapitre 23, du premier au quatrième verset, et puis le verset 19. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Et soulignez bien ça, pour mener deuil et pour la pleurer. Abraham s'éleva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort, et soulignez bien, et l'ôter de devant moi. Verset 19e. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans les pays des Canaan. La seconde lecture, nous la faisons toujours dans Genèse, cette fois-ci chapitre 24, du premier au quatrième verset. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Genèse 25, premier et deuxième verset, et puis le verset 8e. Genèse 25, 1 à 2, puis 8. Abraham prit encore, et soulignez bien l'adverbe encore, prit encore une femme nommée Keturah. Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuak. Verset 8. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée de jours, il fut recueilli auprès de son peuple. Nous ajoutons Ésaïe, chapitre 43, verset 18, ainsi que verset 19e. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Avant de toucher ces passages qui sont d'une très très grande richesse, j'aimerais faire mention de deux choses. La première, elle s'est imposée dans mon cœur et j'ai lutté entre l'école d'où je viens, où il n'est pas souvent habituel que l'on fasse ce genre de déclarations. Mais en même temps, il y avait comme une impression forte dans mon cœur. Je voudrais dire à quelqu'un que cette parole que nous tous nous entendons est et sera un rhéma pour toi.
Amen.
une parole circonstancielle, une parole que non seulement tu dois saisir, intérioriser et pratiquer. Certains seront enrichis et cette parole sera peut-être une source d'information, ils seront simplement des scribes, mais pour quelqu'un, cette parole va au-delà de la simple information. C'est pour s'imprimer dans ta vie et pour que tu les vives et tu les pratiques. La deuxième des choses que je me réfère, c'est nous faire part de la très grande confiance que j'ai en la parole de Dieu. Je crois au miracle, je crois au surnaturel, je crois aux morts qui ressuscitent, je crois aux aveugles qui voient, je crois aux paralytiques qui marchent, mais je crois surtout à la parole de Dieu qui exerce une action plus grande. Des fois invisible aux yeux des gens, mais qui touche le cœur, change de vie et change de façon de marcher et de façon de voir. Les psalmistes parlant de cette parole diront dans Psaume 119, verset 140, que la parole de Dieu est éprouvée. Une autre traduction dit même, elle est entièrement éprouvée. Et le terme éprouvé là en hébreu veut dire, elle a un palmarès. Elle a déjà fait des preuves. Ce n'est pas quelque chose qui doit venir s'imposer. Elle est entièrement éprouvée. 2 Samuel, au chapitre 22, verset 31, dit, la même chose, cette parole, elle est éprouvée, digne de confiance. Dans Psaume 107, verset 19, ainsi que verset 20, parlant toujours de cette merveilleuse parole, alors que les enfants d'Israël étaient dos contre les murs dans une situation difficile. Écoutez ce que les Saintes Écritures disent, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses, mais par quel moyen? Il envoya sa parole et sa parole les guérit. J'aime ce que la version française courante dit, d'un mot, il est guéri. L'abbé déclare, la parole de l'Éternel fait même enfanter les biches. Elle est forte, cette parole. Au commencement, alors qu'il y avait les vides, les néants, il a simplement dit une parole, que telle chose soit, et la chose fut. La parole. Les jours où Lazare est mort et il a voulu ramener la vie, il est allé, il a simplement prononcé une parole. Lazare, mon pasteur a dit, heureusement, il avait cité le nom, parce que s'il avait simplement dit mort, ça aurait été terrible. Ésaïe 55, verset 10 à 11, va plus loin pour montrer comment et combien cette parole ne manque jamais sa cible. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent point sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, mon réma, ma parole circonstancielle, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Ah bon, cette parole a une volonté et accomplit mes desseins. Français courant dit, elle ne revient pas à moi sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Et je le crois, je ne suis pas venu en tourisme et du haut de cette chair ce soir, je suis venu en mission pour que quelqu'un, sa vie ne soit plus la même. Si quelqu'un croit en cela, qu'il m'aide à dire Amen. Parole de vie dit, cette parole ne revient pas à moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Seigneur, réalise ce que tu veux au travers de cette parole. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. La colombe dit, elle accomplit avec succès. C'est pourquoi je l'ai envoyée. Je préparais ce message en tremblant. Je disais, Seigneur, donne-moi les tons qu'il faut. Donne-moi les mimiques qu'il faut. Donne-moi les débits qu'il faut. Donne-moi la concision. Je lui ai dit, Seigneur, la justesse dans la façon de parler n'est pas mon lot. Il arrive des fois, je souffre de l'excès. Il arrive des fois, je souffre du manque. Mais je lui ai demandé, fais-moi grâce de la justesse ce soir. Aide-moi à dire ce que je dois dire, comme je dois le dire. Et je l'ai entendu me dire, je t'exauce et je prie que ça s'efface. Et le message de ce soir a quintuple objectif. Cinq buts à atteindre. Le premier, c'est nous aider à comprendre qu'il est possible sur les chemins de la vie que nous perdions des choses, des valeurs, des choses auxquelles nous tenons, des choses auxquelles nous sommes très attachés, des choses qui ont une valeur particulière, une valeur que peut-être les gens ne savent pas, mais une valeur peut-être qui n'existe que dans notre cœur. Le deuxième but que j'aimerais atteindre avec la grâce de Dieu, et ce but s'est imposé à moi, donné par lui, au travers de ce message, c'est nous faire savoir qu'il nous faut apprendre à enterrer nos sarahs. Quand nos sarahs meurent, il faut les enterrer. Tourner la page et continuer la vie. Le troisième but, c'est de nous montrer la grande place. Je n'ai pas dit la place, j'ai dit la grande. Dites avec moi la grande. La grande place d'une activité de plus en plus négligée, galvaudée, utilisée à peine la prière. La grande place de la prière. Mon pasteur disait, là où tout a échoué, la prière est réussie. La place de la prière pour avoir une vie victorieuse et une vie chrétienne victorieuse. Le quatrième but, ça va vous choquer, étonner. Parce que je suis dans un pays francophone et alors il faut que je dise ça bien. C'est de vous amener désormais à vous attendre à l'inattendu. Au fait, l'inattendu, on ne l'attend pas. Mais Dieu m'a envoyé pour que désormais vous viviez en attente. Attendez-vous à l'inattendu. Attendez-vous à des choses non planifiées, des bénédictions que la météo n'a pas annoncées. Attendez-vous à cela. Car Dieu est un Dieu de surprises. Dieu est un Dieu de nouveaux départs. Dieu est un Dieu de nouveaux commencements. Ma Bible l'appelle le réparateur de brèches. C'est lui qui rend le pays habitable. Il prend un chaos, il renverse les lettres et on en fait quelque chose d'autre. Cinquième but, c'est de nous amener à comprendre que la vie ne s'arrête pas et ne doit pas s'arrêter à cause de ce que nous avons perdu. Genèse 23, 1 à 2 commence par un choc. Un événement tragique qui est arrivé dans les parcours d'Abraham. Un événement que peut-être quelqu'un est en train de connaître ou va connaître. Sarah, est-il dit au verset 2, mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron. Sarah meurt. La Bible ne donne pas beaucoup d'informations sur tout ce qui est attaché à cette mort. A-t-elle été malade et Abraham a vu la mort s'avancer petit à petit, de telle sorte qu'il a été préparé? La Bible n'en parle pas. A-t-elle fait une crise subite? Nous ne savons pas. Mais toujours est-il qu'il est dit, Sarah mourut. Et quand Sarah est morte, comme ça arrive, et nous le verrons, on ne peut rester insensible. Sarah meurt, la Bible dit, Abraham vint pour se lamenter sur Sarah et pour la pleurer. Lui, second dit, il vint pour mener deuil et pour la pleurer. Le nom de Sarah ou Saraï, tel qu'elle s'appelait avant, ça a presque la même signification en hébreu. Sarah signifie trois choses. Premièrement, Sarah signifie princesse. Deuxièmement, Sarah signifie femme noble. Femme aux grandes qualités. Femme ayant des richesses que l'on ne peut évaluer. Mais troisièmement, Sarah signifie chose de valeur. Et même l'hébreu classique dit chose de très grande valeur. Par rapport au Sarah, j'aimerais dire cinq choses que je vous prie de noter. La première, c'est que le Sarah représente les choses auxquelles nous accordons une grande valeur. Princesse, femme noble, chose de grande valeur. Le Sarah représente une relation à laquelle on tient. Un travail. Une affaire, une position, une réputation que l'on a aux yeux des gens. Sarah représente, c'est pourquoi on a souffert et on s'est beaucoup investi. Sarah représente ce qui nous donne une valeur aux yeux des gens. Deuxième chose en rapport avec les Sarah, lorsque nous les perdons, notre vie change. Nous sommes comme déséquilibrés. Nous sommes comme amputés et nous ressentons un vide. Les Sarah sont comme des colonnes. Quand une colonne est déplacée, l'édifice n'est plus le même. Et à cause de cela, Abraham pleure. Il met le deuil. Troisièmement, les Sarah représentent ce que nous croyons être les meilleurs. Et même les maximums à nos yeux. Les maximums que nous pouvions espérer, voir, vivre, expérimenter dans un domaine ou dans un autre. Et lorsque nous les perdons, soit nous ne croyons plus en rien d'autre, ou nous disons, si nous pouvons encore avoir quelque chose, nous n'aurons jamais quelque chose de la même valeur. Si nous aurons quelque chose, ça sera d'une valeur moindre. Quatrième chose, perdre les Sarah n'est ni facile à vivre, ni souhaitable. Lorsque cela arrive, c'est comme si tout s'écroule. Il faut être passé par là pour réaliser ce que c'est. Et cinquièmement, comme j'en ai presque fait mention, la perte de Sarah ne laisse jamais insensible. Elle nous pousse à nous exprimer par des pleurs. Jamais oublié, jeune pasteur assistant auprès de mon pasteur Jacques-André Verneau, j'ai accompagné un homme, il avait la quarantaine, il vient de perdre sa deuxième fille qui avait 12 ans, quatre garçons et puis une seule fille, et j'étais étonné durant les deux jours, cet homme était stoïque, il calmait tout le monde, mais pourquoi vous pleurez? Elle est auprès de Jésus, elle n'a fait que nous précéder, tout le monde qui pleurait, il essayait de calmer, j'ai dit, mais ça c'est un superman. Et puis on arrive au cimetière, je fais l'oraison, et juste quand on fait descendre le cercueil, je demande s'il a un mot à dire. Je le vois d'abord commencer à respirer comme s'il était sous l'eau. Et puis comme ça, j'avais dit que je n'allais pas pleurer. Mais qui t'a bloqué? J'avais dit que je n'allais pas pleurer. Mais pleure. Exprime-toi. Quand on perd le Sarah, on ne peut que s'exprimer. Comment ne pas pleurer quand on a perdu quelqu'un qui représente beaucoup? Car aux yeux d'Abraham, Sarah représentait plusieurs choses. Elle représentait la femme de sa jeunesse, celle qui avait cru en lui et avait accepté de le suivre quand il ne représentait rien du tout. Elle représentait la compagne des mauvais jours, des jours difficiles. Elle représentait celle qui a fait le pari de suivre quelqu'un qui était un échec. Car tout montre que Sarah, au départ, n'avait pas un problème. C'est l'âge qui l'a rendue stérile. Mais Abraham avait un problème dès le départ. Elle pouvait dire, je reste là, j'aurais pu aller ailleurs et avoir progéniture. Non, je vais rester avec toi. Sarah, c'était l'appui de sa vie, sa conseillère et même sa prophétesse, maladroite quelquefois, mais qui voyait avec lucidité ce que lui ne voyait pas. N'est-elle pas celle qui a résolu un problème avant que le problème n'existe? Parce que proche de Dieu, elle a vu le problème des successions plus tard entre Isaac et Ismaël. Elle a aidé son mari à résoudre ses problèmes avant que les problèmes ne se présentent. Cet enfant n'héritera pas avec mon fils. L'avait dit Abraham, se fâcha et ils allaient chercher l'arbitrage de Dieu. Dieu dit, petit, tu ne comprends rien. Elle est en avance. Écoute-la. Comment ne pas pleurer quand on perd quelqu'un de comme ça? Un conseiller spécial, avec une capacité d'analyse, avec une clairvoyance hors pair. Sarah représentait celle qui a partagé avec lui ses peines, ses doutes et ses souffrances. Mais Sarah, finalement, c'était celle qui lui a apporté la consolation. Quand ensemble, ils ont touché l'enfant de la promesse. Ah, je peux imaginer leur joie. Frères et sœurs, j'aimerais dire, sur le chemin de la vie, nous perdrons nos Sarah. Elles représentent beaucoup, elles ont une grande valeur, nous leur devons beaucoup, mais il y aura un jour, notre Sarah va cesser de vivre. Que faire quand Sarah cesse de respirer? Si la première épreuve, c'est l'épreuve de faible commencement et de début, celle qui aurait dû être la cinquième épreuve, mais qui est devenue la deuxième, c'est l'épreuve de la mort de Sarah, que certains ont connue, et certains peut-être connaîtront. Sa première réaction, comme je dis, il a pleuré, il s'est lamenté, il a crié. Les commentateurs disent qu'il a fait ça longtemps. Ça me rappelle aussi la réaction d'un homme. Que dis-je, un groupe d'hommes. 1 Samuel 30, au verset 4, nous en parle. David, un homme de guerre, habitué au combat. À ses côtés, ceux qui allaient devenir plus tard des vaillants hommes. Ils sont attachés aux Philistins comme mercenaires. Alors qu'ils combattent toujours à côté des Philistins ce jour-là, alors que les rois des Philistins veulent les utiliser, ces généraux disent, non, ils ne doivent pas venir. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne pourra pas trop compter sur leur loyauté. Les adversaires en face, ce sont les Israélites. Ce n'est pas impossible que sur les champs de bataille, ils rencontrent cousins, neveux. Est-ce qu'ils auront la même liberté avec l'épée? Quand Okiton devra rencontrer Oma Sombo, va-t-il les poignarder ou pas? Quand Kabongo va rencontrer Chilumba, quand Kambale va rencontrer Kasereka, quand Dieng du Sénégal va rencontrer Sal, et David est chassé. Douleur dans son cœur. Vous savez, subir les rejets, ce n'est pas facile. Et dans son cœur, David dit, bof, allons auprès des femmes et enfants, trouver du bon temps et oublier cette situation. Il rêve d'être dans les bras de ses femmes, il rêve de tenir ses enfants, mais quand ils arrivent à peine, ils voient une scène bizarre, ils voient des paires de chaussures dispersées. Ils se rendent compte que quelque chose a dû se passer, seulement chien et chat qui tournent tout autour. Et la fumée qui sort des cases. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte que quelque chose s'est passé. Femmes et enfants, amenés au camp cadavre, comme pour dire ils sont vivants, mais ils ne sont pas là. Et j'insiste, ce ne sont pas des femmelettes, ce sont des hommes de guerre habitués au combat. Ma Bible à moi dit, ils élevèrent la voix, Ils pleurèrent jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Quelqu'un a dit, le désir de pleurer était encore là, mais le dépôt de larmes était épuisé. Certaines choses, quand on les perd, on ne sait c'est contenir, on ne peut qu'exprimer. Mais si la première réaction était naturelle, normale, la deuxième réaction d'Abraham m'étonne. Au verset 4, il dit, « Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » J'aimerais dire à quelqu'un, c'est normal quand ta Sarah meurt, c'est normal quand tu perds cet être de valeur que tu pleures, mais si tu continues simplement à pleurer, c'est anormal. Il y a un moment, tu dois te décider, je dois l'enterrer. Je l'ai aimé, on a eu du bon temps ensemble, on a eu une relation particulière, mais je dois l'enterrer. Depuis que ce travail est mort, entre guillemets, ta vie s'est arrêtée, suspendue. Depuis que ce garçon t'a laissé tomber, la vie s'arrête. Je ne saurai pas vivre sans lui. Avant lui, tu vivais. Donc après lui, tu vivras. Une jeune fille est venue me voir un jour au bureau du pasteur. Ce garçon m'a plaqué, je vais me tuer. J'ai dit, jeune fille, j'envie ce jeune homme. J'aurais voulu être à sa place, que quelqu'un me tue pour moi. J'ai dit, s'il entend ça, qu'est-ce qui doit se sentir important? Enterre-le! J'aimerais dire, s'il t'a laissé tomber, c'est qu'il ne te mérite pas. J'ai appris sur les chemins de la vie. Quand Dieu laisse qu'une porte se ferme, c'est qu'il en ouvre une autre. Noéla, une jeune fille m'a laissé tomber. Tu en sais quelque chose. À l'époque, quand j'étais informé vide, je ne la blâme pas trop. Quand je revois moi-même mes photos, je dis comment elle allait m'accepter. Mon tort à moi, c'est de l'avoir aimé, mais mon deuxième tort, c'est que j'étais économiquement faible. Elle me voit à l'église de la borne avec le petit français que Dieu m'a donné dans la bouche. Et un peu la petite propriété que j'essayais de mettre sans savoir où j'habitais. Où j'habitais, c'était terrible. Le jour où elle est arrivée, elle dit, donc toi, tu n'as que le français. Et puis elle m'a dit, supposons que je t'ai dit oui. Moi, je suis en train d'aller aux États-Unis. Tu vas venir aux États-Unis à la nage? La nuit par sorcellerie ou comment? Comme j'aime dire, quand j'allais chez elle, tout le monde était francophone jusqu'au chien. Les chiens, tu lui parles en lingala, il te regarde, il dit, qu'est-ce que tu veux dire, monsieur? Ah, j'oublie jamais ce jour. Vivienne n'aime pas que je parle de cette histoire. Elle est partie aux États-Unis, je lui ai écrit une seconde lettre de recours. Donne-moi une deuxième chance. J'ai les promesses de Dieu, une longue lettre, je pense 16 paragraphes. Avec dictionnaire pour que les Français soient cohérents. Déjà économiquement, tu es faible, si tu mets la baptême, la papa encore, ça sera terrible. Et un mois après, j'oublierai jamais, une sœur de l'église s'est mariée, Sisingando. Les mariages étaient à la borne et puis la soirée au palais du peuple. Viviane me dira plus tard, à l'époque, Dieu lui avait déjà dit que Roland, c'est ton mari. Moi, j'étais aux États-Unis. Et juste, on termine la cérémonie des mariages. Le frère de mon épouse vient me dire, frère Roland, est-ce que tu peux venir avec les temps que je pars? Je vois la petite sœur de la dame. Elle t'a écrit. Qu'est-ce que j'étais content. Je me suis avoir pris les courriers. J'ai dit, je lis avant ou après. Non, mieux vaut lire après parce qu'on ne sait jamais si c'est négatif. Je suis monté dans le véhicule et Viviane était à mes côtés avec sa sœur. Et puis je descends, j'ai dit non, pardonnez-moi. Je suis allé lire la lettre.
C'est comme si les Nirangongo, les volcans m'étaient tombés sur la tête. Coup. J'oublierai jamais. Roland, je t'ai dit non. Et les noms étaient la moitié du courrier. Je suis rentré dans le véhicule, comme si j'étais fâché contre tout le monde. Viviane me dit, Roland, tu donnes des réponses sèches. Oui, non, non, non. Dieu disait, c'est elle qui fera ton bonheur. Dieu regardait, mais c'est la mère d'Eunice, c'est celle qui est là, à tes côtés. Si Sarah meurt, enterre-la. Abraham enterra Sarah. Enterrer veut dire trois choses, mettre sous la terre. C'est-à-dire éloigner de la vue et du regard. Enterrer veut dire mettre dans le sol en recouvrant des terres, c'est-à-dire acte volontaire pour faire disparaître de la vue. Troisièmement, enterrer veut dire faire disparaître dans le but d'oublier. Notez cinq choses en rapport avec l'enterrement. L'enterrement, premièrement, n'est jamais un acte facile. Deuxièmement, l'enterrement coûte toujours à celui qui le fait. On enterre en pleurant, on enterre avec douleur. Troisièmement, on ne le fait pas parce qu'on veut, on le fait parce qu'on doit. On le fait souvent en serrant les dents, malgré les cœurs qui saignent. Mais quatrièmement, enterrer veut dire je tourne la page et je m'ouvre à autre chose. Et cinquièmement, l'enterrement, c'est un acte qui coûte, mais qui est salutaire. Celui qui va enterrer, il ouvre un caveau, il dépose les morts. Je vois comment ça se passe chez nous au cimetière, on pleure un peu, et puis on tourne les dos pour dire, je retourne vers la vie. Qu'il y a des gens qui n'aiment pas enterrer leurs morts. Qu'il y a des gens qui dorment avec les cadavres. Qu'il y a des gens qui chérissent les Sarah, je ne veux pas l'enterrer. Elle doit rester à mes côtés. Que des gens qui gardent Sarah morte dans leur placard ou dans leur tiroir. Je suis venu ce soir en mission pour dire à quelqu'un, enterre ta Sarah, même en pleurant. Si vous n'enterrez pas vos Sarah, quatre choses se passeront. La première, vous vivrez dans le passé que vous allez embellir, ennoblir. Il y a des gens qui sont au présent mais qui ne vivent que dans le passé. Ah, lorsque papa était vivant. Ah, lorsque nous allions à l'école avec un chauffeur individuel. Lorsque nous fûmes, lorsque nous eûmes, lorsque nous achetâmes, lorsque nous. Tout au passé simple. Deuxième chose qui arrive lorsque vous n'enterrez pas Sarah, vous avez peur et vous refusez de passer à autre chose. Vous vous fermez. Troisième chose qui arrive lorsque nous n'enterrons pas les Sarah, nous sommes comme dans un parking, tout s'arrête. Plus d'initiative, plus de rêves et plus d'ambition. Écoutez un homme qui, après avoir perdu un enfant qui est comme aussi l'image de Sarah, s'appelait Jacob. C'était d'ailleurs une fausse mort, mais qui a connu un vrai deuil. Genèse 37, au verset 35. Il dit, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils. Il avait dit, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler, mais ne voulurent recevoir aucune consolation fermée. C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Il avait dit, et il pleurait son fils. L'original dit, il le faisait tous les jours. Quatrième chose qui arrive lorsque nous n'enterrons pas nos Sarah, le futur sera comme une salle d'attente de la mort. Nous nous restons là qu'en attendant que la mort vienne. Et cette mort même que l'on souhaite comme une délivrance. Ceux qui n'enterrent pas leur Sarah vivent dans le passé. Est-ce que tu es au présent ou dans le passé? Mon pasteur disait, tout celui qui a trop le regard fixé vers ou tourné vers le passé devient aveugle quant à son avenir. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, casse ton rétroviseur. Regarde l'avant. Cesse d'avoir le regard tourné vers le passé. Écoutez ces gens, ils ont été déportés à Babylone. Psaume 137, verset 1. Sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et pleureux en nous souvenant de Jérusalem, Sion. Oh Sion, du matin au soir, oh Sion. Quand vous terminez de pleurer Sion, vous êtes à Babylone. Trop d'amoureux du passé, des nostalgiques avec N majuscule. Psaume 77, verset 6. Je pense aux anciens jours, aux années d'autrefois. Ah. Ah. Mais j'aime ce qu'Ecclésiaste 7, 10 dit. Ça, c'est Dieu qui bouleverse quelqu'un. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Car ce n'est point de la sagesse. Mais j'aime surtout, bien plus encore, ce qu'Ésaïe 43, 18 à 19 dit. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne les connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Remarquez une chose, des choses nouvelles, c'est Dieu qui doit les faire. Mais pour qu'il les fasse, il dit, ne pensez plus. Seigneur, pourquoi toi-même tu ne viens pas m'aider à ne pas penser? Il dit, c'est à toi de faire l'effort. Il dit pas, je viendrai t'aider à ne plus penser. Il dit, toi sois acteur, ne pense plus. Il dit, j'élimine ça. À partir de maintenant, je zappe cela, j'enlève cela. Français courant dit, ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Parole de vie dit, ne pensez plus à ce qui est arrivé. Oubliez le passé. Tob va plus loin. Tob dit, ne ressassez plus les faits d'autrefois. Ne ressassez plus. Ne faites pas de cela un refrain. Comme quand on était tout jeune avec les disques, 45 tours ou 33 tours. Quand c'est abîmé, ça commence à chanter au même endroit. Roland, 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 Roland. C'est ça. Ne ressassez plus. Je n'ai que 51 ans. Au mois de mars prochain, j'en aurai 52. Mais j'ai vu des choses dans ces quelques années. J'ai vu cette réalité qui est mentionnée dans la Bible. Cette phrase qui revient 13 fois dans l'Ancien Testament, après ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, il y a toujours un après ces choses. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, la trahison, il y a un après ces choses. Ne suis pas la dictature du présent. Aujourd'hui, a tendance à te dire que tout s'arrête, il n'y aura rien. J'aimerais dire, tout ne s'arrête pas. Mais pour que cela arrive, tu dois enterrer ta Sarah et continuer à vivre. Et David est un bel exemple des gens qui savent tourner la page. De Samuel chapitre 12, versets 20 à 24. J'aurais vécu à l'époque, je ne sais pas si j'ai... En africain, je dirais David doit être le sorcier, celui qui doit avoir bouffé l'enfant. L'enfant malade, tout s'arrête. Plus d'audience au palais royal. Non, les investisseurs qui sont venus de tel endroit, les rois disent, ils ne reçoivent personne. Couché par terre, ils ne mangent pas. La vie du royaume s'arrête, suspendue à cause de la douleur du roi. Et puis finalement, l'enfant meurt. Les conseillers regardent, ils disent, malade déjà, il était comme ça. Si on va lui annoncer d'abord, il va se pendre. Et alors qu'il parlait entre eux, un homme expérimenté, il a compris. Il les appelle et dit, l'enfant est-il mort, n'est-ce pas? Je vois comment il se regarde. Mais dis-le, mais dis-le. Et quand il informe finalement que l'enfant est mort, il s'attend à ce qu'il tombe. Il dit, la salle de bain, elle est où? Il est allé se laver. Il dit, où est mon parfum Kouros? Oh. Je fais un tour au temple, préparez-moi les makayabo. Beaucoup d'oignons. Intrigué, les gens rigolent. Oh. De telle sorte, quelqu'un est venu même lui poser la question. Mais quand l'enfant vivait encore, et puis maintenant, Il dit, il ne va plus revenir vers moi. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à tourner la page. Tu crois que le meilleur travail, le meilleur emploi, c'est celui que tu as perdu. Mon cher, je t'ai dit depuis que j'ai perdu Anne, donc tel que tu me vois là, c'est un cadavre vivant. Alors on va t'aider, on va t'enterrer. Comme ça, le processus de mort va continuer. Abraham n'a pas seulement enterré Sarah, mais il a posé deux actes courageux qui ont changé le cours de sa vie. Le premier acte qu'il a posé, c'est celui que nous voyons dans Genèse 24, 1 à 4, trois mois après la mort de Sarah. C'est Abraham qui s'élève, il appelle Eliezer, il dit, va chercher une femme pour mon fils. Mais la douleur de Sarah, et à peine il veut festoyer déjà. Et les commentateurs disent, quand on est revenu avec Rebecca, trois jours de fête. La tradition juive dit, Abraham était le plus joyeux. Trois mois après, Abraham a dit, moi j'ai tourné la page. Seigneur, merci pour les années d'avec Sarah. Merci, mais la vie ne s'arrête pas. Mais le sacrilège, c'est que cinq mois après, le mariage d'Isaac, donc 8 à 9 mois après le décès de Sarah, Genèse 25, un dit, Abraham prit encore une femme. Abraham dit, je vais me marier. Je vois les puristes dire, les hommes, vraiment. J'ai jamais oublié, jeune pasteur, j'ai été à côté de mon pasteur, fait Jacques-André Vernon, un papa qui était avec nous. Sa femme a été malade 2 ans. Ce n'est que plus tard qu'on a su qu'elle avait fait un cancer. Et les 18 derniers mois, il n'y avait presque plus de vie. C'était un cadavre à la maison. Et la femme meurt 1 mois et demi après. Je suis au bureau avec le pasteur Vernon, c'est papa, il dit, pasteur, je vais me marier dans 1 mois. Le pasteur Vernon dit, mes frères, il dit, ma femme m'avait autorisé déjà. Et puis il va plus loin, il dit, pasteur, si je veux que je te dise, ça fait 18 mois que je n'ai plus une vie normale d'un homme marié. Si tu veux un scandale qu'un homme de 60 ans, en gros, c'est une femme à l'église, alors... rallonge. Mais si tu veux m'aider, mais sauvegarder les témoins. Le pasteur dit, mes frères, on peut encore quand même ajouter 2 mois. Il dit, bon pasteur, coupons la poire en 1 mois. Abraham, qu'est-ce que tu cherches encore? Tu as eu un enfant, celui de la promesse. Et puis Abraham, qu'on se le dise. Ça, c'est la belle phrase qu'on prononce à l'université de Kinshasa. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise, Abraham, ça fait 31, 32 ans depuis qu'Isaac est né. Et même avant qu'Isaac ne naisse, Sarah témoignait que tu n'étais plus un vrai homme. La preuve, le jour où l'ange est venu dire, Sarah s'est mise à rigoler. Dieu, le ciel, il est loin. Vous avez des problèmes de fusion, vous ne savez pas ce qui se passe dans cette maison. Ici, nous, on joue qu'au Scrabble et au billes avec ces messieurs. Et si 32 ans avant, il était déjà fini, que dire? Donc, on peut lui demander, qu'est-ce que tu cherches encore? Mais le problème n'est pas le mariage. Le problème, c'est qui il a épousé. La Bible dit, il épousa une femme nommée Keturah. Dites avec moi, Keturah. Keturah veut dire 3 choses. Keturah veut dire, premièrement, encens. Keturah veut dire, deuxièmement, parfum de bonne odeur qui monte. Mais dans l'hébreu classique, Keturah veut dire prière. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu perds Sarah, épouse Keturah. si tu perds quelque chose de valeur, si tu perds quelque chose de riche, pleure, mais attache-toi à la prière. Aide-moi à dire à ton voisin, marie-toi que tu auras. Quand tu perds Sarah, pleure, mais va préparer ton costume de mariage. Je vais me marier encore, mais pas à n'importe qui. Je vais me marier à l'encens. Je vais me marier au parfum qui monte. J'aimerais me marier à la prière. Désormais, je prierai au carré. Désormais, je prierai aux racines carrées. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Avec la princesse, il a eu un enfant. Mais quand il a épousé Keturah à la prière, il a eu 6 enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, marie-toi Keturah. Les gens s'étonnaient. 9 mois après, Keturah est encore enceinte. Mais on pensait que c'était un vieux gaou, il était fini. Keturah vous redonne une nouvelle jeunesse. Aide-moi à dire à quelqu'un, marie-toi Keturah. Encens, prière, parfum. Apocalypse 5, verset 8, nous parle de 24 vieillards qui tenaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Psaume 141, verset 2 dit, que ma prière soit devant toi comme l'encens. Et tu verras ce que Dieu peut faire. Dieu m'a dit de venir dire à la parole du salut en général, mais à quelqu'un en particulier. Cette année 2016 dépendra de ta relation avec Keturah. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, prie comme jamais tu n'as prié. Jésus pratiquait Keturah et il a eu du succès dans son ministère. Pendant qu'il faisait encore nu, la Bible dit, il sortait tout fils de Dieu qu'il était. Quand il devait choisir les apôtres, il passa toute la nuit. Si lui a passé toute la nuit pour le choisir, toi, ta paresse que tu caches derrière la foi, c'est ce que j'ai demandé, ce que je ne t'ai pas demandé. Au nom de Jésus, amen. Ta paresse, par rapport à la prière, tu la caches dans toutes sortes d'intellectualisme. Ne soyez pas si bigot. Quel rapport y a-t-il entre le ventre creux et l'exaucement? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Mon Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière. Et si tu mets seulement prière, ça ne réussit pas. Il faut aussi y associer le jeûne. La dernière fois où tu as jeûné, c'est quand? Ben, c'est si important, pasteur. Ok. J'oublie jamais, j'en ai parlé une fois ici. Je pratiquais Keturah quand j'ai perdu ma Sarah. En novembre 2006, j'ai perdu Sarah. Tout s'écroulait pour moi. Non, non, c'est quelque chose. Réputation par terre. J'oublie jamais ces jours où j'ai eu l'impression qu'on allait me donner un coup d'estocade, papa Cyril. Je vais dans cette agence de voyage en ville pour faire une réservation. La jeune fille est en train de noter les infos me concernant. Puis elle me regarde, pasteur, je t'aimais beaucoup, je t'ai suivi à la télé. Il semble que tu as volé 50 000 dollars à l'église d'où tu viens. Tu es voleur. Quand il parlait comme ça, je regardais s'il y a d'autres qui étaient à côté. Dans ma tête, je dis, désormais, quand je marche, on dit, voleur. J'oublie jamais. Je sors de cette agence en pleurant quasiment. Ma Mercedes rouge était tombée en panne, j'ai repris les transports en commun. Je prends un taxi, j'oublie jamais, du centre-ville jusqu'à Bandal. Et à Bandal, je vais prendre, ceux qui connaissent un peu Kinshasa, pour aller à Lupen. Et puis, le taxi s'est arrêté à Delvaux.
On appelle ça demi-terrain chez nous. Et puis quand je monte dans le troisième taxi, j'oublie jamais, il était 11h30 pour aller chez moi. À peine le taxi démarre, quelqu'un qui était derrière dit au taximen, mets la radio, parole éternelle. À cette heure, ils font passer la prédication. Le taximen s'est retourné. Il dit, l'église du blanc où il y a l'adjoint est noir et il a volé 50 000 dollars. J'ai dit, de même les taximen sont au courant. Et j'arrive chez moi à la maison, nono, vers 13h30. J'ai souvent difficile à en parler. Je disais, je les écrirai dans mes mémoires. Mes trois filles rentrent de l'école et elles me trouvaient toujours sous l'arbre. La deuxième et la troisième viennent m'embrasser, puis l'aîné passe directement, les yeux tout rouges. J'ai dit à sa maman, mais pourquoi elle peut passer comme ça? Elle ne m'a pas embrassé. Sa maman revient larmoyant aussi. Elle dit, Roland, va, c'est à cause de toi. Elle dit, à cause de moi. Je vais vers Younis et... Ouf. Elle me regarde dans les yeux, dit, papa, aujourd'hui à la récréation, j'ai cogné une amie. Dit, toi, tu ne fais que cogner les gens. Ton papa est un voleur, non, on l'a chassé à l'église. Là, ce n'était pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est quand ma fille dit, papa, regarde-moi dans les yeux. Tu as volé l'argent, oui ou non? Ah, vous rigolez, mais moi, c'était un coup de poignard. J'ai dit non. Mais ma fille commence à douter de moi. Quand on était petit, on rigolait beaucoup à Kinshasa. Il y avait une musicienne togolaise qui s'appelait Bella Bello. Dans un de ses chants, clips, elle pleurait, mais les larmes sortaient d'un seul œil. Je me suis surpris. J'ai dit, j'ai pas volé, puis ça sortait d'un seul œil. J'ai dit, moi, je suis Bella Bello masculin. Douleur. Tout s'écroulait. Chaque semaine, je prêchais à la télévision. 5 millions de gens suivaient à Kinshasa. Ça faisait du bien de sortir. Et puis les gens disaient, ah, pasteur, on t'a suivi à la télé. Chômage des hommes. Je savais d'où je venais. Je savais où j'étais. Mais je ne savais pas où j'allais. Et j'arrive aux États-Unis, je rencontre cette prophétesse. J'en ai parlé une fois ici. Elle m'a proposé Keturah. Elle m'a dit, je vois, tu es enceinte d'une œuvre grande. Deux, je vois, ton pasteur t'aime beaucoup, mais il y a deux personnes qui, quand il souffle les choses à l'oreille, il est contre toi. Et puis, il ajoute une troisième chose, je vois le chiffre 33. Du quand tu vas rentrer au pays, fais 33 jours de prière. Je n'ai jamais oublié, posologie, deux cuillerées de légumes et un demi-verre de jus. Je saute rarement les repas. Je suis un tireur d'élite, moi. Quand je jeûne pas, je bouffe sérieusement, vigoureusement. Moi, je mange en louant. J'en ai parlé une fois ici, les jours où j'ai découvert dans la Bible que même après l'enlèvement, on continuera à manger. Qu'est-ce que j'étais content. J'ai dit, oh, ça continuera là-bas. Donc même s'il n'y aura pas de mariage, mais la bouffe. Et j'ai fait les calculs. 33 fois 3. Mais quelque chose que j'aime, c'est à moi que ça avait été dit. Cette dame a dit, Dieu me dit, si tu fais cela, tu verras ce que tu vas accoucher. C'est cela que j'aime dire aux aigles spirituels. Ne vous mariez pas simplement pour des raisons cosmétiques. Elle a une sorte de plastique. Voyez aussi l'intérieur. Docteur, je suis rentré des États-Unis, j'ai dit à mon épouse, l'on m'a dit de jeûner 33 jours. En mangeant comme ça, il m'a regardé et dit, on va jeûner ensemble. Elle m'a accompagné durant ces 33 jours. Faisant des prières des fois qui ne finissaient pas. Seigneur, je te rends grâce. Ah. Elle m'a dit, si tu le fais, tu verras comment Dieu va. Aide-moi à dire à ton voisin, épouse que tu as.
Et Keturah lui a donné plusieurs choses. Notez rapidement, je vais aller, puis on va prier. La première des choses que Keturah a fait, elle vous redonne comme une nouvelle force. Deuxièmement, les Keturah vous font produire des choses cachées auxquelles vous ne pensiez plus. Mais troisièmement, les Keturah vous amènent au maximum de Dieu. Au-delà des limites que vous avez établies, les Keturah arrivent à vous donner des choses, même dans vos rêves les plus fous, vous ne pensez jamais avoir. Pour Abraham, c'était fini. Isaac et peut-être Ismaël. Mais c'est fini. Quand les Keturah viennent, vous vivez ce que Jacob a expérimenté. Quand Jacob arrive en Égypte, il voit Joseph et puis il voit les enfants de Joseph. Écoutez ce qu'il dit. Je ne pensais plus revoir ton visage. Mais Dieu me fait voir même tes enfants. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, je ne sais pas qui, il y a des choses que tu ne pensais plus voir. Dieu me dit, non seulement va te les faire voir, mais va aller au-delà. Déjà Joseph, je me disais, Joseph il est mort. Si Joseph est mort, comment tu peux voir les enfants de Joseph? J'aimerais dire à quelqu'un, pense, crois, espère à bien plus. Il m'a dit de dire à quelqu'un sur des choses que l'œil n'a point vues, dont l'oreille n'a point entendu parler, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées d'avance. Il a utilisé ces termes tout à l'heure vers 12h40 quand j'étais en train de prier. Il m'a dit, Roland, va dire à quelqu'un, je complote en sa faveur. J'aimerais rapidement aller conclure. Avec Sarah, ils ont vécu 110 ans, un seul enfant. Avec Keturah, 38 ans, 6 enfants, et les 10 premières années. Productivité, plus, comme malaria, plus chez nous. Quels enfants ils ont eu? Le premier enfant qu'ils ont eu, ils l'ont appelé Zimram. Zimram veut dire musicien ou celui qui chante. Mais Zimram veut dire en hébreu classique, cantique des joies. J'aimerais dire, si tu t'attaches à Keturah, à la prière, il y aura des cantiques des joies qui vont sortir. Il y a des cantiques de réjouissance qui chôment, mais qui n'attendent que quelqu'un qui va s'attacher à Keturah. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un chant. Il y a un chant, mais qui ne va sortir que si tu vas en union avec Keturah. Ils ont eu un deuxième enfant qu'ils ont appelé Jokshan. Jokshan veut dire celui qui capture les choses d'en haut, ou l'oiseleur. Lui ne capte pas les choses d'en bas. Lui, il aime les choses élevées. J'aimerais dire, si tu t'attaches à Keturah, tu capteras des choses. Tu ne seras plus quelqu'un qui a des choses basses. J'aimerais crier encore, épouse Keturah. Ils ont eu un troisième enfant qu'ils ont appelé Madian. Médan plutôt. Médan veut dire lutte ou dispute. Mais l'hébreu original dit c'est lui qui lutte et qui ne perd jamais. Si tu t'attaches à Keturah, dans tes combats, les matchs nuls seront tes minimums. Mais il n'y aura que des victoires et des victoires. Si seulement tu t'attaches à Keturah. Ils ont eu un quatrième enfant qu'ils ont appelé Madian. Madian veut dire ténace, qui lutte sans se lasser. Mais d'autres versions disent, plus il lutte, plus il devient fort. Quand tu épouses Keturah, elle ne te rend pas fort. J'aimerais être italien. Elle te rend fortissimo. Qu'est des vigueurs qui t'attendent. Qu'est des forces pour vaincre. Mais faible et spirituel. Est-ce que tu jeûnes encore? Et puis ils ont eu un cinquième enfant qu'ils ont appelé Jishbak. Jishbak veut dire celui qui rend libre à cause de son abondance. À cause de ce qu'il vous apporte des trop. Mais Jishbak veut surtout dire c'est lui qui a plus que ce qu'il doit avoir et ce dont il a besoin. Jishbak va t'amener à l'au-delà. J'aimerais le dire en bon français, tu n'auras ni minimum ni optimum. L'optimum, c'est ce qu'il faut. Il t'amènera au maximum. Tu utilises et ça reste. Et puis enfin, ils ont eu un sixième enfant qu'ils ont appelé Chouak. Chouak veut dire en hébreu trou, dépôt. Mais ou mieux encore, endroit où l'on garde ce que l'on a gagné parce que c'est en grande quantité. Du reste, en hébreu classique, Chouak veut dire coffre fort. Vous savez, celui qui a 1000 francs congolais n'a pas besoin de coffre fort. Celui qui a 50 euros n'a pas besoin de coffre fort. Si tu commences à chercher des coffres forts, c'est que tu en as suffisamment. J'ai pris que tu t'attaches à Keturah. Tu en auras tellement que tu voudras mettre à l'abri. Mais j'ai conclu. Celui qui avait l'impression que le maximum était arrivé avec Sarah, à cause de Keturah, écoutez comment il est mort. Genèse 25, 8, il dit, il est mort dans une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié des jours. La version top dit comblé. Les commentateurs disent, il est mort en souriant. Joyeux. Écoutez-moi, frère, dans la vie, n'établis jamais de limites, car Dieu est le seul qui est capable d'en établir et peut vous amener au-delà. Avant-dernière chose que je voudrais dire avant de clore, c'est que Keturah devenant la femme d'Abraham et l'image des choses que l'on ne pensait jamais avoir. Ne limitez jamais Dieu. Ruth était en train de glaner dans ses champs sans savoir que quelques mois après, elle sera la propriétaire de ses champs. Dieu est plus fort que vos rêves. Dieu sait là où elle est en train de glaner. Elle sera propriétaire. Celle qui l'a poussée, dans quelques mois, elle va commencer à les commander. Allez, toi, aujourd'hui, tu vas travailler là. Avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Mais puis, je termine avec Keturah. Keturah nous donne une leçon. Les commentateurs disent qu'elle avait la quarantaine. Quand elle voyait Abraham se promener avec Sarah, elle ne pouvait jamais s'imaginer qu'elle serait l'épouse de cet homme. Jamais, jamais, jamais. Keturah nous enseigne que Dieu peut nous donner des choses auxquelles on ne pensait jamais. Jamais. Même dans ses rêves les plus... Elle ne pouvait jamais s'imaginer, moi, la petite Keturah, je serais la femme de ces grands messieurs. Il y a des rêves, si on vous les propose, maintenant on dit tu deviendras ça, tu dis, ah tiens, laisse, ça ne sert à rien. Encourage-moi simplement. Mon pasteur, mon aîné, le pasteur aussi l'aîné du pasteur Noéla, revient de Bolobo, ils étaient allés en 88, ils rentrent à cette époque-là, je portais un seul pantalon, une seule chemise, pantalon que j'appelais fils unique et chemise fille unique. Il me dit, Roland, quand j'étais en train de prier là-bas, je t'ai vu aller prêcher l'évangile au-delà des mers et des océans. Je t'ai vu prêcher en anglais. J'ai dit, dis à Dieu de me donner d'abord les habits. Au-delà des mers, là, on verra après. C'est une manière de lui dire, comment cela se fera-t-il? Mais quand je vois ce qui se passe dans ma vie, j'aimerais nous inviter à quelques 5-10 minutes à réagir à ce message. J'aimerais que les joueurs de harpe reviennent un moment. Qu'allez-vous nous jouer? Mais j'aimerais lancer deux appels et ceux qui se sentent libres vont venir ici devant. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, pasteur, j'ai perdu Sarah. J'ai perdu des choses, des valeurs. Et comme Abraham, je pleurais, mais je n'arrive pas à l'enterrer. J'ai perdu Sarah, mais je garde le cadavre. J'ai perdu Sarah, mais je l'ai dans mon placard. J'ai perdu Sarah, mais je n'arrive pas à l'enterrer. Pasteur, ce soir, j'aimerais enterrer Sarah et croire et espérer en autre chose. Pasteur, même en pleurant, j'aimerais tourner la page de cette déception et m'ouvrir pour une nouvelle relation. J'ai perdu Sarah, mais je veux l'enterrer. Mais le deuxième appel que j'aimerais lancer, il y a plusieurs, et Dieu me l'a dit. Ils ont perdu Sarah. Ils l'ont même enterrée. Mais ils n'ont pas épousé Ketura. Enterrer Sarah, c'est bien. Mais si tu n'épouses pas Ketura, si tu ne fais pas de la prière ton style de vie, Dieu m'a dit, parole du salut, Paris, votre force en 2016 sera dans les genoux. J'aimerais vous supplier, priez comme jamais avant. Priez même en marge des programmes. J'aime pas trop parler de ma vie de prière, mais l'Esprit de Dieu me pousse à le faire. Depuis 15 ans, chaque 1er janvier, je suis en jeûne. Depuis 15 ans. 15 ans, je ne mange jamais le 1er janvier. Les soirs, je prends des légumes et puis un peu de jus. Mais le 26 décembre, Dieu m'a dit, Roland, cette année, il y aura deux visages. Tu auras des défis inimaginables. Il m'a donné ce passage de Jérémie qui dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et il m'a dit, Roland, mais cette année, la gloire sera aussi grande si tu payes les prix. Et le 26, alors que j'ai prié, j'ai vu les chiffres 7. Il m'a dit, donne-moi les 7 premiers jours. Je vais lui dire à mon épouse, le premier vrai repas, je le prendrai les 8 au soir. Mes filles me demandaient, mais papa, pourquoi tu ne viens pas à table? Et j'ai dit, il y a un prix à payer.
Ce message vous a été proposé par l'église évangélique Parole du Salut, maison de rafraîchissement située au 8 rue Gilles Gued, 91 860 Épinay-sous-Sénart. Que Dieu vous bénisse.